Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bruno-Paul Carreau. Bonjour.
Bonjour.
Bruno-Paul Carreau, vous êtes poète avant tout ?
Non, je ne suis pas poète avant tout, c'est une passion. Donc j'ai depuis 5 ans eu la passion de la poésie japonaise et je suis tombé sur des recueils de haïkus. Je parlerai de Maître Basho, hein, qui est le grand maître du haïku, et ça m'a vraiment passionné. Et donc en tant qu'ancien enseignant en physique, je me suis transformé en poète, entre guillemets, de ce genre de poésie japonaise qu'on appelle le haïku.
Une découverte qui s'est produite à quel moment ?
Alors, une découverte qui s'est produite en lisant un jour un livre qu'on m'avait offert de Maître Basho, que je ne connaissais absolument pas, et qui était composé de haïkus avec des estampes japonaises. Donc, il y avait l'ensemble des dessins estampes japonaises, le poème de haïku, poème court, et j'ai eu un coup de foudre pour ce genre d'expression littéraire.
Cet aspect de poésie ou d'expression, qu'est-ce qui vous fascine ? C'est le côté minimaliste des mots ?
Alors, il y a le côté minimaliste, il y a le côté expression directe de sensation. Parce que le haïku, on n'est pas cérébral. C'est-à-dire que le haïku, on fait parler les sens, donc les 5 sens, et à partir de là, eh bien, on a une sorte d'étincelle qui jaillit, on essaye de traduire l'instant présent. Donc, c'est une impression de l'instant présent par l'intermédiaire de ces sens.
Et pour avoir une meilleure, de mieux saisir un haïku, qu'est-ce qui est préférable, le lire ou l'entendre lire ?
Alors, ça dépend entre quand on l'écrit. Alors, je reparlerai, on a une sorte d'éclair, on a une sorte de vision, et ensuite, on écrit ce qu'on ressent. Voilà. Alors, je reparlerai de la construction du haïku. Au départ, le haïku, qui répond à des règles strictes, eh bien, quand on ressent et on écrit quelque chose, on ne respecte pas ces règles. C'est-à-dire, on va ne pas sortir les règles strictes du haïku. Et le haïku, qui est très simple et minimaliste, finalement, c'est quelque chose de tellement simple qu'on est obligé de travailler longtemps avant d'arriver à quelque chose qui exprime vraiment ce qu'on a ressenti.
Une recherche de l'essence, l'essentiel ?
C'est hors du cérébral et c'est le ressenti d'une sensation, d'une sorte d'illumination du vécu.
Avant d'être auteur de haïku, vous étiez donc dans l'enseignement
Alors j'étais dans l'enseignement, j'étais enseignant de physique et chimie au collège et lycée de Die. Je suis arrivé au lycée et collège en 1988 et j'ai pris ma retraite il y a 4 ans, voilà.
C'est par le fait de ce métier que vous êtes arrivé sur Die, je suppose, ou vous aviez aussi une envie d'y être ?
Alors, c'est une longue histoire, parce qu'avant, j'étais ingénieur biochimiste, et j'habitais à Paris. Et un jour, avec ma femme, on a décidé de partir, et je suis parti en coopération pendant 5 ans dans divers pays, en commençant par l'Algérie, puis après la Côte d'Ivoire. Et où j'ai enseigné effectivement dans ma spécialité qui était la biochimie et la physique pharmaceutique, et l'immunologie et la technologie alimentaire. Donc l'histoire, à un moment donné, c'est retour d'Afrique, dans une partie de la France, le sud, et avant de trouver quelque chose qui nous plaisait, on est parti Carpentras, on a remonté au fur et à mesure, et un jour on est tombé amoureux d'une vieille maison qui était à Jonchère. Maison du XVIIe siècle. Et à partir de là, j'ai postulé au rectorat pour un poste d'enseignant où je postulais pour un poste d'enseignant en maths, en physique et en biologie. Et l'aventure a commencé en 88. On m'a proposé d'enseigner les maths et la physique et chimie au collège de Die. Voilà le départ.
Le haïku, en quelque sorte, est-ce que c'est la relève de ce que vous enseignez ? Et est-ce qu'il y a une forme aussi de poésie ou de construction qui vous a permis d'aborder le haïku par rapport à vos connaissances sur les mathématiques, la physique, chimie ? Il y a une manière de s'exprimer aussi dans ce domaine ?
Alors, je dirais qu'il n'y a pas de relation directe entre, j'allais dire, la physique, chimie et le haïku. D'autre part, depuis que je suis, disons, adolescent, j'ai toujours aimé la poésie. Et donc, j'ai lu Verlaine, Baudelaire, Rimbaud. Et donc, j'ai toujours eu une sensibilité à la poésie. Maintenant, quand je suis tombé sur un livre de Bachot, ça m'a parlé et j'avais envie de développer tout ça. Donc, je me suis intéressé exactement à ce que c'était qu'un haïku, pour savoir quelles étaient les règles pour les construire. Donc, effectivement, il y a des règles strictes. On pourrait dire que quand on a un esprit un peu mathématique... mais bon, il n'y a pas de relation directe entre une rythmique et puis ce qu'on ressent et ce qu'on exprime tout de même.
Dans le haïku, il y a certainement des règles d'écriture. Ouais. Est-ce qu'on parle de pied ?
De mort.
De mort ?
Oui. Alors, il y a quelque chose de différent, c'est-à-dire que en japonais, le haïku, au départ, c'était... un verset. Et dans ce verset, il y avait une rythmique de 5, 7, 5 morts. Les morts sont des unités phonétiques. Il y a une évolution, et en français, on a traduit ce verset en 5, 7, 5 par trois vers superposés de 5, 7, 5 syllabes. Et bien sûr, il y a des règles de construction par rapport au comptage des syllabes. Bon, je ne vais pas entrer, c'est assez complexe, entre les E, le E final, les E qui sont à l'intérieur du son d'un verset. Mais grosso modo, alors c'est 5, 7, 5, voilà la rythmique. Ensuite, dans le véritable haïku, il y a un mot de saison, c'est-à-dire on commence un haïku par un mot de saison, ce qu'on appelle un kigo. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement un mot qui va introduire une saison déterminée, ce qu'on appelle le haïku de saison. Non, il y a des symboles. C'est-à-dire que les feuilles, ça représente l'automne. La neige, c'est l'hiver. Et après il y a aussi, dans un bon haïku, il y a tout simplement ce qu'on appelle une césure. Une césure, c'est ce qu'on appelle un kireji, c'est un petit tiret, un point d'exclamation ou un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a le premier ou le deuxième vers qui se termine par une césure. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une césure ? C'est un temps de repos, c'est-à-dire qu'on s'arrête et après on reprend, mais souvent sur une autre idée. Donc, un haïku, ce n'est pas une phrase qui est pliée en trois. C'est... des impressions, et on introduit les impressions, on se replace dans l'espace, dans une saison, et après on va développer à partir de cette saison quelque chose qui nous a impressionné, par exemple la chute des feuilles, ou l'eau qui gèle. Il n'y a pas de cérébral dedans, donc il n'y a pas de maxime. Il faut échapper au cérébral et on laisse parler ses sens.
Donc, des textes proches de la nature, de sa perception, en tout cas ?
Alors, dans le haïku, il y a plusieurs types de haïku. Il y a le haïku de saison, dont j'ai parlé. Il y a le haïku de circonstance. Et le troisième type, c'est ce qu'on appelle un senryu. Alors, senryu, ça vient d'un poète japonais qui s'appelait Senryu le Vieux. Et c'était quelqu'un qui était chrétien, très critique, qui critiquait la dirigeance politique du Japon, qui dirigeait la religion bouddhiste. Donc c'est quelque chose qui est très critique, humoristique, et qui est très différent. Donc un senryu, c'est une sorte de haïku dans un contexte de critique un peu exacerbé des fois.
Vous avez participé aussi à des revues, hein, une qui est intitulée « Ploc » avec un point d'exclamation inversé, puis « Gong », donc à ma connaissance, hein, deux revues auxquelles vous participez, où se retrouvent aussi d'autres auteurs comme vous de haïku.
Alors, j'étais en tant que passionné de haïku, j'ai adhéré à une association qui s'appelle AFH, Association francophone de haïku. Et l'Association francophone de haïku publie régulièrement, une fois par trimestre, une revue qui s'appelle Gong. Et dans ces revues Gong, on fait participer ceux qui sont passionnés de littérature japonaise. Et il y a donc, tous les trimestres, il y a un thème qui est donné et il faut écrire des haïkus sur ce thème. Et après, il y a un comité de sélection qui choisit les meilleurs et les publie dans cette revue Gong. Alors, c'est qu'une partie c'est de la revue. Il y a d'autres parties qui traitent de l'aspect du haïku, de rencontres avec des auteurs de haïku, donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Ploc, c'est une revue en ligne de haïku. Donc, pareil, même, un peu processus, il y a des thèmes qui sont imposés et on écrit des haïkus sur les thèmes. Donc, il y a un comité aussi de sélection et ces haïkus qui ont été sélectionnés sont publiés. C'est une revue en ligne, donc on peut la lire. Et c'est une revue gratuite en ligne, donc on peut aller sur Ploc, sur Internet. Voilà.
Et Gong également, pareil.
Alors Gong, c'est une revue, il faut s'abonner. Voilà. Donc il y a un abonnement. Et dans cet abonnement, on reçoit un petit journal, une revue qui s'appelle Gong. Et en même temps, il y a aussi des recueils de haïku qui sont faits par des auteurs qui ont été sélectionnés. Et après, il y a des magazines, disons, des revues un peu spécialisées sur un type. Donc, il y a un certain nombre de choses. Et c'est payant. L'abonnement est payant, là, par contre.
Vous êtes ici aussi pour nous parler d'un ouvrage qui est édité chez Edit Livre et qui s'intitule « Taches de sang sur paletot bleu horizon ». Donc, un ouvrage que vous dédiez aux combattants et aux poilus de la Première Guerre mondiale. Quel a été pour vous l'enjeu d'écrire un texte ou des textes sur cette époque ?
Alors, la première chose, c'est que je suis un peu passionné par la Grande Guerre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mon grand-père a participé à cette guerre. Donc, il a fait 14-19. Et il a fait un journal de guerre. Ce journal de guerre, je l'ai lu. J'ai essayé de retranscrire l'écriture de ma grand-mère. Et j'étais donc plongé dans cette histoire. En même temps, il y a des auteurs de bande dessinée, je prendrais par exemple Tardy, qui ont fait des livres sur la guerre de 14-18. Et le dessin, en général, c'est noir. On montre toutes les horreurs de la guerre. Et donc tout ça combiné, j'ai eu envie de me plonger un peu dans la vie du poilu. Et j'ai lu à peu près plus d'une centaine de lettres de poilu. Et étant donné que j'étais passionné de haïku, pour chaque lettre de poilu que j'ai lue, je l'ai traduit par un haïku. Et j'ai présenté tous ces haïkus un peu sous la forme des recueils de haïkus japonais, c'est-à-dire par saison. Alors, dans mon livre, je parle de l'été 1914, et après, je vais reprendre automne, hiver, printemps, été et dernier automne. Donc, ça suit un peu la structure des livres traditionnels de haïku. Et j'ai mélangé à la fois, donc, il y a la traduction des lettres de poilu que j'ai lues, et en même temps, des souvenirs de mon grand-père. Mon grand-père était quelqu'un qui, un peu taiseux, et qui nous a parlé rarement de la guerre de 14-18. Et quand il en parlait, tout à coup, son visage s'illuminait, il se replongeait dans ses souvenirs de guerre. Et il avait commencé en tant que jeune appelé en 14, où il était dans le génie. Et il nous racontait cette histoire où il creusait sous les tranchées françaises, il traversait le No Man's Land et il repartait, il arrivait sous les tranchées allemandes. Et dans le génie, dans ses tranchées, ses boyaux souterrains, il plaçait des explosifs sous les tranchées allemandes, il repartait, et ensuite il faisait exploser. Voilà, donc ça commençait. Il avait des souvenirs assez intenses de ces périodes, parce qu'il a passé sous terre dans des conditions, j'allais dire, assez difficiles, et l'appréhension de se trouver nez à nez avec des Allemands qui faisaient la même chose en face. Donc j'ai un certain nombre de souvenirs. Alors juste un souvenir, il racontait que, bien sûr, les Allemands faisaient la même chose. Ils avaient inventé une sorte de bélier souterrain. C'est-à-dire quand ils écoutaient le bruit des Allemands qui creusaient, ils pouvaient creuser tant qu'ils les entendaient. Et quand ils ne les entendaient pas, ça voulait dire que les Allemands avaient posé la dynamite sur leurs tranchées. Donc ils revenaient rapidement, ils évacuaient un petit peu les tranchées, ils allaient en seconde ligne pour revenir après, ils attendaient une explosion. Et ils avaient inventé quelque chose de très simple. Ils avaient inventé une sorte de trépied avec une pioche et un ressort. Il y avait quelqu'un, pendant qu'il creusait, qui tirait le ressort. Et quand il repartait, le poilu qui s'en occupait continuait à tirer le ressort et la pioche faisait son bruit dans la terre. Ce qui veut dire que les Allemands, en entendant le bruit de la pioche par des Français, disaient « c'est bon, on peut y aller ». À un moment donné, ils faisaient exploser tout. Et bien sûr, malheureusement, j'allais dire, parce que les Allemands qui étaient dans le goulet partaient, puisqu'il y avait un entonnoir qui se créait, il y avait toute une partie de la tranchée ennemie qui se disparaissait. Une autre anecdote que j'ai mise dans mon livre... la guerre de 14-18, bon, c'était, y avait une tranchée, quand il pleuvait, il y avait de l'eau au fond de la tranchée, il y avait les poux, il y avait les rats, et il y avait le gel, et en hiver, souvent, l'eau gelait. Donc les poilus, de temps en temps, se rasaient, ils se rasaient non pas à l'eau, mais ils se rasaient au vin. Donc quand ils avaient leur blaireau, ils avaient de la mousse rose, et voilà un peu les poilus avec la mousse rose et le visage rose de vin.
J'ai lu récemment que les poilus avaient au quotidien 4 litres de vin distribués par l'armée. Donc le vin n'était pas forcément que pour boire, mais c'était devenu aussi un liquide d'hygiène quelque part.
Alors les poilus, il y avait une distribution de vin. Alors ça leur permet de reprendre du courage, mais il n'y avait pas que le vin qui était distribué. Quand on allait attaquer, il y avait une distribution de gnôles. Et c'est-à-dire que, bon, au bout de quelques mois, les poilus étaient enterrés. Et en plus, bon, quand ils attaquaient, il y avait des mitraillettes en face. Il y avait un certain nombre qui disparaissaient. C'était un peu la foire où on leur tirait dessus. Et pour leur donner du courage, il y avait une distribution de gnôles. Et une anecdote que j'ai apprise par là, il y a un terme très péjoratif, et de bougnoule. Alors d'où ça vient ? Bien, tout simplement parce qu'il y avait aussi des appelés qui venaient d'Afrique du Nord. On leur donnait donc cette gnôle, et bon, dans leur langage, ils disaient « c'est de la bougnoule, c'est de la bonne gnôle ». Et il y a eu une déformation, et voilà pourquoi ce terme très péjoratif est apparu lors des combats de la guerre de 14 avec les appelés d'Afrique du Nord.
Vous disiez avoir lu au moins une centaine de lettres qui manaient de poilus de 14-18 ou 14-19. D'ailleurs, vous préciserez pourquoi 19. Oui. Quels sont les mots qui reviennent souvent, qui sont récurrents ?
Alors, les mots récurrents, c'est la peur de se faire tuer. Et la peur de se faire tuer, c'est-à-dire que le poilu, par exemple, qui était envoyé à Verdun, avait très peu de chances de revenir de l'attaque. Donc, le poilu, eh bien, il prenait une feuille de papier et commençait à rédiger une lettre à sa femme, à ses parents, et il disait « Ceci est peut-être une lettre posthume et je lègue mes dernières pensées à mes parents, à ma femme, ou ces lettres que j'envoie, je voudrais un jour qu'elles soient lues par mes enfants. » Donc c'est le terme un peu récurrent. C'était vraiment la peur, et le poilu avait, bon, quand il voyait, disons, les charges, les vagues, parce qu'on parlait de vagues offensives, et le peu de gens qui revenaient, eh bien c'était la hantise, se faire tuer. Ça, c'était un premier point. Un deuxième point, il y avait des poilus qui écrivaient « Voilà, je pars demain, je suis à Verdun, ou je suis au Chemin des Dames, je vais attaquer, et je préférerais mourir que de revenir estropié. Donc, mes parents, si vous recevez cette lettre, ça sera peut-être la dernière, parce que je n'ai pas envie de revenir à ce pied, de perdre un bras, une jambe lors de ces assauts.
Ces textes, ce sont des témoignages, ce sont aussi des retranscriptions des visions ou des sensations de personnes impliquées dans cette guerre. Est-ce que l'invisible ou l'ineffable est possible aussi d'être rédigé dans un haïku?
Alors, dans un haïku, ce sont des sensations, ce sont des perceptions. Alors, l'ineffable apparaît, c'est-à-dire comment l'ineffable peut apparaître. Alors, je prends, moi, les exemples de lettres que j'ai lues pour les traduire dans des haïkus. Alors, l'ineffable par rapport au poilu qui attaque, c'est Dieu. Alors, beaucoup des poilus étaient croyants. Et ils remettent leur destinée à Dieu. Et ils parlent souvent du fléau qui va s'abattre. Donc, ils prient Dieu avant d'attaquer pour que la faux de la mort ne les abatte pas. Voilà, un petit peu l'ineffable. C'est plutôt, dans toutes ces lettres que j'ai retraduites en écho, c'est la sensation, c'est la peur, c'est l'angoisse. C'est le devenir des enfants, s'il y avait des enfants qui les attendaient. Et des fois, il y a des critiques. Alors, il y a eu beaucoup de critiques de poilus, surtout à partir de 17, par rapport aux poilus qu'on a fusillés. Donc, là, il y a eu beaucoup de lettres et le poilu commençait à critiquer, j'allais dire, les officiers qui étaient planqués et qui leur ordonnaient d'attaquer. Donc il y a beaucoup de lettres dans lesquelles il y a du vécu, où il y a leurs camarades qui ont été tirés au sort, qui se sont retrouvés à genoux devant un peloton d'exécution. Et il y a eu toute une partie de lettres, donc de haïku, qui reparle de ces exécutions, j'allais dire sommaires, tirées au hasard, de camarades qu'ils ont vus, des camarades qui fréquentaient et qui participaient à la vie de la tension.
Oui, je crois qu'il y a eu au moins 600 soldats exécutés sur les 8000 condamnés à mort pendant la guerre 14-18, à titre d'exemple. Et ça, c'était une initiative d'un colonel Pétain ou général Pétain.
Alors, il n'y a pas eu que le maréchal Pétain, il y a eu d'autres généraux qui ont ordonné de faire des exemples. Alors, il y a eu à un moment donné, il y a eu pour un Noël, sur le front, il y a eu des soldats allemands et des soldats français qui se sont retrouvés, qui ont échangé, qui ont fumé des cigarettes allemandes, qui ont bu du vin français, qui ont, fraternisé. Et bien sûr, après, c'était un mauvais exemple, puisque, a priori, les états-majors allemands et français voulaient qu'ils s'entretuent. Donc, il y a eu beaucoup d'exemples où des poilus ont été tués, ou pour des simples motifs, alors il y a eu des films dessus, ou pour des motifs futiles, par exemple, des poilus qui mouraient de faim, qui allaient chercher une poule, qui allaient voler une poule et qu'on fusillait le lendemain, tout simplement parce que c'était des voleurs de poules et c'était des conscrits, qui étaient des appelés, et pour l'exemple, qui ont été tués.
Et puis on ne manquera pas de parler aussi ou de citer Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, qui avait mis le point sur ces exécutions arbitraires.
Alors c'est une partie qui est un peu cachée, mais il y a eu beaucoup, d'exécutions, du côté français. Alors je n'ai pas en tête le nombre de fusillés. D'ailleurs, on ne connaît pas exactement ce nombre exact, puisqu'il était un peu caché par l'état-major. Mais il faut dire que 14-18, bon, c'était des périodes qui étaient très longues, le moral des troupes qui descendaient, il fallait faire des exemples. Et bon, il y a eu à un moment donné un couperet qui est tombé, et malheureusement, faire des exemples pour éviter que les gens pensent et se rebellent sur ces ordres qui étaient d'attaquer.
Ça, c'est un univers qui a été, écrit par les poilus eux-mêmes. Et il y a une chose que je voudrais savoir, parce que ça, on n'en parle pas, parce que ça ne se voit pas, mais c'est l'odeur de la mort, du combat. Est-ce que ça transparaît aussi sur ces lettres? Et est-ce que vous avez tenté de les porter en haïku?
Alors, il y a eu beaucoup de lettres sur l'odeur de la mort. Alors, l'odeur de la mort, c'était tout simplement, il y avait des charniers. Donc, c'est-à-dire les gens qui attaquaient. Alors, il faut dire que dans le No Man's Land, bon, il y avait des barbelés. Et ceux qui attaquaient, normalement, devaient couper les barbelés. Il y avait un certain nombre de soldats, de poilus, qui ont été agrippés par ces barbelés. Ensuite, qui n'ont pas pu s'enlever et qui ont été tués, bien sûr, par les Allemands. Ou des Allemands qui ont été tués par les Français. Donc, il faut imaginer un No Man's Land où il n'y avait plus aucune végétation. Certains poilus parlaient de terre noire de poudre, d'aspect lunaire. Il y avait des cratères, il y avait de l'eau, il pleuvait, des corps qui pourrissaient, qu'on laissait. Qui pourrissaient au fond des crevasses, des cuvettes, les corps qui étaient agrippés et qui se décomposaient. Il y avait une odeur de charnier absolument épouvantable. Autre chose aussi, on parle de millions de morts de corps allemands ou français, mais on ne parle pas aussi des milliers de morts de chevaux. Parce que les chevaux, bien sûr, étaient utilisés pour le transport des canons, pour le transport des marchandises, pour le transport des troupes. Et souvent, il y avait des bombardements, et ces bombardements à l'aveugle tuaient des chevaux. Donc, il y avait un peu partout aussi des cadavres de chevaux, ces cadavres de chevaux qui se décomposaient avec les corbeaux qui venaient les piqueter. Il y avait des odeurs épouvantables. Autre odeur, la promiscuité dans les tranchées. Ben, bien sûr, les poilus n'avaient pas l'eau courante, hein, on s'imagine très bien. Donc, ils restaient pendant des jours et des jours au fond des tranchées. Alors, bien sûr, ils ne se lavaient pas. Ils restaient au fond de la tranchée. Souvent, ils gelaient. Il y avait des rats partout. Et des rats qui venaient même leur grignoter le bout du nez ou qui venaient leur manger, les extrémités qui étaient gelées. Donc c'était, on ressent ça dans les lettres, ces odeurs, cette promiscuité, c'est quelque chose qui était un peu abominable. Donc quand on lit, on n'a pas les odeurs, mais ceux qui ont écrit les lettres retranscrivent ces odeurs, c'est ce qu'ils sentaient.
En prenant un peu de recul par rapport à ces lettres, et puis comme vous vous êtes intéressé, vous vous intéressez à cette guerre de 14-19, d'ailleurs, pourquoi guerre 14-19?
Alors mon grand-père a fait la guerre de 14-19. Alors pourquoi 19? Eh bien, après le 11 novembre, eh bien, la France est allée occuper l'Allemagne, la Rhénanie. Donc mon grand-père, qui avait commencé en 14, eh bien, est resté jusqu'en 19 en Rhénanie. Donc il y avait l'occupation. On oublie, mais l'occupation française, il était démobilisé, disons, en 19. Alors qu'après, c'était l'armée française qui a occupé l'armée française donc régulière, qui a occupé la Rhénanie, et les appelés ont été libérés en 19.
Et donc, je revenais, quelles sont, d'après vous, les motivations ou les sentiments qu'éprouvaient ces personnes sur le fait d'être enrôlées dans quelque chose qui les dépassait et quel était ce motif du pouvoir à l'époque? Est-ce qu'il y avait une envie de faire disparaître un pan d'une société à qui on n'avait pas d'avenir peut-être?
Alors, c'est une question, c'est un peu dur de répondre. Parce que
je
vais prendre le début de la guerre, guerre de 14-18. Alors, le début de la guerre de 14-18, c'était tout simplement, c'est bon, on part, on va abattre du Bosch, super, la fleur au fusil, on chante. Donc, le début de la guerre, c'était l'euphorie, les troupes qui s'entraînaient.
On sera là pour Noël.
On sera là pour Noël, bientôt Noël à Berlin. Voilà, ça, c'était le début. Et puis, au fur et à mesure, donc les combattants qui s'entraînaient. Et puis, après, il y a eu la véritable guerre. Ensuite, la guerre des tranchées, l'armée qui s'enterre. Et une fois que l'armée qui s'enterre, il y a tous les problèmes annexes. Et puis ensuite, il y a l'attaque, il y a tout ça qui se passe. Les Français qui attaquent Bayonnette en avant, et en face, il y avait bien sûr les Allemands qui avaient des mitraillettes, le fauchage, il y a eu des centaines de milliers de morts et autres. Donc très rapidement, j'allais dire, de cette euphorie, eh bien, ceux qui étaient là se sont sentis un petit peu, j'allais dire, ils ont commencé à se rendre compte que ce n'était pas une guerre éclair, mais que ça allait durer. Donc on le ressent. On ressent dans les lettres qu'on lit qu'ils commencent à avoir peur de se dire, mais finalement, on est parti euphorique, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis entre l'euphorie et puis, il faut s'imaginer, hein, un petit peu des obus qui tombent, alors du camp allemand vers le camp français, du camp français vers le camp allemand. Ensuite, les mitraillettes. Après, il y avait le bombardement des tranchées, les attaques, ceux qui revenaient pas. On voyait les copains qui étaient restés sur le champ de bataille. On les ramenait pas. C'était devenu horrible. Non, très rapidement, le poilu s'est rendu compte que c'était de la chair battée. Donc, au bout d'un certain temps, eh bien, dans les lettres, on sent bien que l'euphorie a disparu, réalité de l'atrocité de la guerre, le sentiment qu'on va y rester, mais que deviendra ma femme et mes enfants. On ne voit pas, alors en 17, bon, ça continuait, il n'y avait pas grand-chose, et puis il y avait les alliés qui sont arrivés, en même temps il y avait des rovers, on avançait, on reculait. Quand on avançait, on prenait la tranchée allemande. On arrivait des fois dans un village français, mais il restait plus rien que des ruines. Et on trouvait exceptionnellement des fois une maison qui était intacte, mais à l'intérieur, tout avait été pillé alors, par les Allemands qui avaient enlevé tout le matériel, le mobilier. Donc, c'est quelque chose, j'allais dire, c'est l'horreur, c'est une horreur. Et puis en même temps, il faut dire aussi autre chose, et on n'en parle pas, on lit beaucoup dans les lettres des poilus, c'est le retour à l'arrière. On revient à l'arrière, revient dans sa ville. Et on se rend compte que les gens qui habitent là sont complètement déconnectés. Et on les regarde, mais on ne s'intéresse pas à ce qu'ils font. Et le poilu s'est senti abandonné. Donc il y a beaucoup de et puis bon, on rentre dans sa famille, mais en même temps c'est tellement horrible qu'on cache tout ce qu'on fait. On ne parle pas. Et en plus, il faut pas oublier aussi que à l'époque les lettres des poilus étaient inspectées. Donc il y avait un organisme spécial, c'est-à-dire que toutes les lettres des poilus étaient lues et tout ce qui était un peu défaitiste était découpé. Donc les lettres, souvent, on recevait des lettres qui étaient découpées, donc ce n'était pas la réalité. Et ce qui était dit dans les journaux, bien sûr, c'était des mots d'ordre, disons, euphoriques de l'armée. Donc ça aussi, hein, on retrouve bien dans les lettres des poilus.
Je reviens sur ma question. À titre d'exemple, ces façades d'immeubles du début du XXe siècle, avec ces ornements qui étaient extraordinaires, sculptés par des mains d'ouvriers, il y avait énormément de choses qui étaient très très belles, ou qui étaient à la quête d'une beauté. Est-ce que cette quête-là, c'était un peu aussi, aux yeux de certains, comme un vol d'Icare trop près du soleil, c'est-à-dire qu'une société peut-être trop cultivée n'était plus trop malléable, et est-ce qu'il a fallu cette nécessité de guerre peut-être pour faire une purge en quelque sorte?
Alors là, c'est, j'allais dire, se replonger dans l'état d'esprit.
C'était l'état d'esprit aussi de ces personnes qui étaient dans les tranchées. Qui étaient-elles en profession? La plupart étaient des agriculteurs, ça, certes.
Ou des ouvriers. Ouais.
Ou des ouvriers. Ouais. Mais quel était ce motif de sacrifice, je dirais?
Bon, alors déjà, il faut vous rappeler dans l'histoire qu'il y a eu la guerre de 70. Où on a pris, disons, il y a eu l'armée française a pris des revers, disons, assez conséquents, et on a perdu l'Alsace et la Lorraine. Donc, on se replonge dans cette déroute de l'armée française, la revanche à prendre sur l'Allemagne. On a perdu l'Alsace et la Lorraine, et j'allais dire, n'importe quel habitant de France, quelle que soit sa profession, avait envie de prendre une revanche et de reconquérir, bien sûr, ce qui nous appartenait. Donc, je pense qu'au début, c'était un peu le patriotisme. Les gens, quand ils sont partis, étaient très patriotes. Il n'y avait pas eu beaucoup de protestations, à part certains qui ont protesté contre cette guerre, mais les gens partaient à la fleur de fusil, je l'ai dit. Donc, quels que soient les ouvriers, que ce soit les enseignants, que ce soit les ingénieurs, les instituteurs et autres, majoritairement, à cette époque, il y avait une idée de patriotisme et puis de revanche et de reconquête.
Après, la guerre de 70 n'était pas celle de 14-18. Il n'y avait pas les mêmes moyens d'armement et l'industrie qui était derrière aussi, je suppose.
Finalement, la guerre de 14, l'industrie, militaire, la fabrication des obus, etc., avait un essor fantastique. Il faut dire aussi que les femmes ont eu un rôle très important, puisque la majorité des usines, c'était des femmes qui travaillaient. Et principalement, l'effort de guerre a été réalisé grâce à toutes les femmes qui ont travaillé dans l'industrie. Donc, il y a eu un petit peu de la technologie française contre la technologie allemande. Et il y a des gens qui ont fait fortune dans la guerre de 14-18 pour tout ce qui était armement, fusils, obus, gourdes, draps, etc. Donc, il y a des gens qui ont tiré profit. Donc, que ce soit un Krupp en Allemagne ou d'autres grands monopole, en France, il y a des gens qui ont fait de l'argent sur la guerre de 14-18. Bon, c'est des choses différentes, mais c'était une guerre assez technologique. Il ne faut pas oublier aussi qu'après, il y a l'industrie chimique allemande qui a commencé à créer des gaz très nocifs. Il y a eu du chlore, il y a eu le gaz moutarde, etc. Donc, on a mis. L'Allemagne a commencé par utiliser la science, l'avancée de la science, pour la détourner à des fins meurtrières. La France a répondu, bien sûr, par l'utilisation des mêmes gaz. Et il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il y a eu des gaz qui ont été échangés. Donc, il y avait des obus remplis de gaz. Et les premiers poilus ont eu les poumons brûlés. Et ensuite, il y a eu aussi toute la technologie de développer ces masques à gaz vers des masques qui étaient beaucoup plus performants. Et on parle là de technologie. Donc, c'était une guerre de technologie. Les alliés anglais avaient créé, il y a eu les premiers blindés. Donc la technologie a été mise en œuvre pour justement écraser l'adversaire qui était en face.
On pourrait peut-être écouter quelques haïkus qui se rapportent à votre ouvrage et peut-être aussi expliquer. Je ne sais pas si vous vous référez aux lettres que vous avez lues avant de pouvoir rédiger le haïku. Est-ce que vous vous référez ou vous introduisez ce haïku par rapport à la lettre que vous avez lue ?
Alors, je n'ai pas introduit les haïkus par rapport aux lettres que j'ai lues. J'ai tout simplement traduit des périodes pendant lesquelles ces lettres avaient été écrites. Donc, par période, j'ai sélectionné un certain nombre de haïkus et on voit l'évolution. Alors, un haïku, pour bien le comprendre, il faut le lire deux fois. Donc, je lirai un certain nombre de haïkus deux fois. Mobilisation. Content d'aller en Allemagne, leur mettre la pâtée. Mobilisation. Content d'aller en Allemagne leur mettre la pâtée. Au son du clairon, marche martiale font guerrier. D'une belle, un regard. Au son du clairon, marche martiale font guerrier. D'une belle, un regard. Au bruit du sifflet, la lente vague humaine se mit en mouvement. Au bruit du sifflet, la lente vague humaine se mit en mouvement. Moisson mortuaire, tige humaine déchiquetée sur la terre gise. Moisson mortuaire, tige humaine déchiquetée sur la terre gise. Sang rouge des conscrits, ver maigre répandu à terre entre les coquelicots. Sang rouge des conscrits, ver maigre répandu à terre entre les coquelicots. Jeunesse crucifiée, morsure des barbelés, vampire de la mort. jeunesse crucifiée, morsure des barbelés, vampire de la mort. Litanie du soir, de nombreux mourants appellent en pleurs leur maman. Litanie du soir, de nombreux mourants appellent en pleurs leur maman. Lever du soleil, nuages de mouches attirés par l'odeur de sang. Lever du soleil, nuages de mouches attirés par l'odeur du sang. Cruauté sublime, cœur de l'hôpital reçoit un dernier obus. Cruauté sublime, cœur de l'hôpital reçoit un dernier obus. Voilà, je vais passer à... Donc là, on était tout simplement à l'été 1914. Je vais prendre quelques haïkus de l'automne. Valeureux cheval, sur le sol, tripe s'écoule, recouvert de chaux. Valeureux cheval, sur le sol, tripe s'écoule, recouvert de chaux. Vol noir des corbeaux, autour des chevaux tournent dans leurs yeux la mort. Vol noir des corbeaux, autour des chevaux tournent dans leurs yeux la mort. Église éventrée, Bible gît sur une chaise, prière tu t'envoles. Église éventrée, Bible gît sur une chaise, prière tu t'envoles. Caprice du métal. Un obus couvre des cadavres, un autre les déterre. Caprice du métal, un obus couvre des cadavres, un autre les déterre. À l'arrière-chef, jouant avec les hommes pour un galon de plus. À l'arrière-chef, jouant avec les hommes pour un galon de plus. Des morts par milliers, prêtes à rencontrer Dieu, belle envolée d'âmes. Des morts par milliers, prêtes à rencontrer Dieu. Belle envolée d'âmes. Quelques haïkus de l'hiver. Heure grise, blafarde, jour noir tisse son ennui, s'étire nuit blanche. Heure grise, blafarde, jour noir tisse son ennui, s'étire nuit blanche. Morsure de l'hiver, des pieds se gèlent immobiles, soldats estropiés. Morsure de l'hiver, des pieds se gèlent, immobiles, soldats estropiés. L'horreur peut servir, mort éteigne les tranchées, main noire ressort. L'horreur peut servir, mort éteigne les tranchées, main noire ressort. Couché dans la paille à la lueur, l'être s'écrit d'une simple bougie. Couché dans la paille à la lueur, l'être s'écrit d'une simple bougie. Censure, tu opères. L'être mutilé de mots, révoltante pratique. Censure, tu opères. L'être mutilé de mots, révoltante pratique. Poilu à genoux, yeux bandés, mains attachées. Dernière prière. Poilu à genoux, yeux bandés, mains attachées. Dernière prière. Paletot déchiré. Blessure, libère au vent, joli mot d'amour. Paletot déchiré. Blessure, libère au vent, joli mot d'amour. Bottes de tranchées, vous transformez les soldats en crabes des marais. Bottes de tranchées, vous transformez les soldats en crabes des marais. Pour aller combattre, avant d'avoir vu l'ennemi, coule l'agnole. Pour aller combattre, avant d'avoir vu l'ennemi, coule l'agnole. Printemps, donc quelques écoutes sur le printemps. Printemps, terre remuée, aérée, transfigurée, jardin de troncs morts. Printemps, terre remuée, aérée, transfigurée, jardin de troncs morts. Torrentielle pluie, dans la vase, bombe enfoncée, n'éclate surtout pas. Torrentielle pluie, dans la vase, bombe enfoncée, n'éclate surtout pas. Sur tombes anonymes, printemps fait pousser des fleurs. Mort enfin vaincu. Sur tombe anonyme, un printemps fait pousser des fleurs. Mort enfin vaincu. Verdun l'accalmie. Vit dans un charnier humain. Cadavre comme copain. Verdun l'accalmie. Vit dans un charnier humain. Cadavre comme copain. prière murmurée, ferveur divine pour dévier la pluie des obus. Prière murmurée, ferveur divine pour dévier la pluie des obus. Permission finie, sentir une indifférence aux affres du front. Permission finie, sentir une indifférence aux affres du front. Œuvre des marraines, illusion de chaleur donnée à des culs gelés. Œuvre des marraines, illusion de chaleur donnée à des culs gelés. Lettre à garder, la fille du poilu, enfant, un jour les lira. Lettre à garder, la fille du poilu, enfant, un jour les lira. Printemps arrivé, embaume ma permission, amandier fleuri. Printemps arrivé, embaume ma permission des amandiers fleuris. Fort gelé nocturne, avec du vin se raser, sur peau aux roses mousses. Forte gelée nocturne, avec du vin se raser, sur peau aux roses mousses. Quelques haïkus, été. Pourquoi se marier ? Être estropié par une balle ou infirme à vie ? Pourquoi se marier, être estropié par une balle ou infirme à vie ? Carte pour son fils. Recommandation à suivre, être un honnête homme. Carte pour son fils. Recommandation à suivre, être un honnête homme. Mais où est passé le patriotisme ardent ? Enthousiasme en berne. Mais où est passé le patriotisme ardent ? Enthousiasme en berne. Réconfort d'écrire, échange futur de baisers, l'amour se partage. Réconfort d'écrire, échange futur de baisers, l'amour se partage. Fine pluie tombe de soldats, furtive silhouette, brume sur le boyau. Fine pluie tombe, de soldats, furtive silhouette, brume sur le boyau. Dernier automne. 4 ans de guerre, satisfaction retrouvée, sol français foulé. 4 ans de guerre, satisfaction retrouvée, sol français foulé. Avion de combat, rêve belliqueux brisé, fauché dans les airs. Avion de combat, rêve belliqueux brisé, fauché dans les airs. Morne jour sur la plaine, âcre odeur prend à la gorge, vite un masque à gaz. Morne jour sur la plaine, âcre odeur prend à la gorge, vite un masque de gaz. Demain offensive, ma compagne en tête, parents à consoler. Demain offensive, ma compagne en tête, parents à consoler. Ma maman chérie, quand tu recevras ma lettre, pense bien à moi. Ma maman chérie, quand tu recevras ma lettre, pense bien à moi. Suivre les fantassins comme repère à terre à mort, français puis allemand. Suivre les fantassins comme repère à terre à mort, français puis allemand. Fusée éclairante, en ras les hommes se terrent, avancent dans le noir. Fusée éclairante, en ras les hommes se terrent, avancent dans le noir. Un homme agonise, prend gardier, supplié, odeur d'excrément. Un homme agonise, prend gardier, supplié, odeur d'excrément. 11 novembre matin, clairon résonne sur la plaine, cloche à toute volée. Carillon sonne, fût des canons refroidissent, muselés à jamais. Carillon sonne, fut des canons refroidissent, muselés à jamais. À l'arc de triomphe défilent les troupes en liesse, morts plus nombreux encore. À l'arc de triomphe défilent les troupes en liesse, morts plus nombreux encore. Une belle chrysanthème poussée par hasard fleurit dans un trou d'obus. Une belle chrysanthème poussée par hasard fleurit dans un trou d'obus.
Pourquoi répéter ce texte ?
Eh bien, c'est une tradition. Chaque haïku doit se lire deux fois. La première fois, on écoute le haïku, et la deuxième fois, quand on l'écoute, on ressent les émotions qui sont véhiculées par le haïku.
Ça me fait penser un peu à ces messages adressés lors de la libération de la Deuxième Guerre, où la radio de Londres émettait des messages à l'adresse des résistants et y répétait souvent le message. Est-ce qu'il y a un rapport ?
Alors, il n'y a pas trop de rapport.
Mais
il n'y a pas trop de rapport. Simplement, lors de la Deuxième Guerre, bon, c'était des sentences qui étaient envoyées et pour les résistants. Et il y avait donc un décryptage qui se faisait après. Donc, il fallait que la sentence soit la plus courte possible pour que le message soit le plus clair. Bon, effectivement, puisque souvent... il y avait des fois des extraits de poèmes, par exemple Verlaine ou autre, mais souvent, bon, c'était des sens qui étaient incompréhensibles. Donc, il n'y a pas trop... C'est pas tout à fait le même contexte.
Cet ouvrage, donc, intitulé « Taches de sang sur paletot bleu horizon », édité chez Edilivre, on peut le trouver à la librairie Mosaïque, je suppose, mais aussi sur Internet, par exemple. On peut passer commande de cet ouvrage ?
Oui, alors on peut passer commande de l'ouvrage à la FNAC, sur Amazon. On peut, puisqu'il est répertorié sur les listes des libraires, donc ça peut effectivement se trouver, sur Internet. Mais bon, c'est plus, plus de contact, d'aller voir ce livre qui est en présentation et le commander, sachant que pour tous ces livres qui sont commandés à la librairie Mosaïque, il y aura une dédicace de ma part, pour chaque acheteur.
Et le haïku dans le Diwa, est-ce qu'il y a des amateurs avec vous qui pratiquent cet art ?
Alors, j'ai un certain nombre d'amis qui partagent ma passion et on se retrouve régulièrement pour parler des haïkus. Et puis, comme j'ai un ancien réflexe d'enseignant, eh bien, j'ai un peu disséqué la technique du haïku pour leur transmettre un petit peu cette technique et maintenant pour développer, savoir les écueils à éviter, savoir qu'est-ce qu'il faut faire de telle façon à traduire le plus simplement possible des émotions et des ressentis.
Bruno Paul Caro, je vous remercie donc de nous avoir donné un peu de temps pour cet ouvrage donc de haïku et je vous souhaite une bonne soirée. Oui, vous vouliez rajouter quelque
alors
chose ?
Oui, alors j'ai mon véritable prénom, c'est Bruno et mon grand-père s'appelle Paul. Et donc en hommage à mon grand-père, j'ai mis Bruno Paul Caro comme écrivain de ce recueil d'haïku sur la guerre de 14-18.
Bonne soirée alors.
Allez, bonne soirée et puis merci de m'avoir invité et d'avoir partagé ma passion avec vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.